savoir, Louise Touret.
Bienvenue dans le magazine de l'éducation de France Culture. Nous sommes ensemble pour une heure pour ce deuxième volet de notre réflexion sur les cultures alimentaires enfantines et adolescentes. Après l'alimentation des ados en octobre dernier, nous nous intéressons aux cantines, une expérience fondatrice et collective. Et c'est un sujet d'actualité puisque la secrétaire d'État auprès de la ministre de la Santé, Christelle Dubos, annonçait il y a quelques jours que la cantine à 1 euro sera lancée d'ici la fin du mois d'avril. Un dispositif qui pourrait toucher 10 000 communes et être associé à des petits déjeuners gratuits dans les écoles des zones en difficulté. Si les débats sur la restauration scolaire tournent en général plutôt autour de la qualité des cantines, et nous en parlerons, des choix alimentaires, des interdits, des polémiques autour du halal. Qu'en est-il de l'expérience de la cantine pour ceux qui mangent? Comment l'appétit d'être ensemble et l'humour des enfants résistent-ils à l'acoustique? On leur demande encore parfois de ne pas parler du tout pendant le repas, à la nourriture trop souvent au rabais et au rythme effréné des services successifs. On se demandera au passage si les enfants d'aujourd'hui s'amusent toujours à imaginer que leur âge est inscrit au fond d'un verre Duralex, s'ils dessinent dans leur purée. Et puis, comment être sûr quand on mange à la cantine que son voisin de table ne s'est pas davantage servi dans le plat que vous ou qu'il n'a pas vidé son verre d'eau dans le bro avant que tout le monde n'ait fini de boire? Bref, la cantine est une expérience ludique et parfois infernale. Ceci est-il anecdotique? Non, c'est la vie et les repas de 6 millions d'enfants et d'ados. C'est un enjeu du quotidien, bien ou mal manger. Passer une bonne ou une mauvaise journée, rappelez-vous vos années d'écolier. Et bien sûr, nous aborderons aussi les enjeux économiques colossaux, liés à la restauration scolaire qui est devenue un marché avec tout ce que cela implique pour les mangeurs et les employés. En fin d'émission, la leçon de choses de Sophie Bobert avec l'architecte Paul Chemetoff. Ce sera donc nos 5 dernières minutes pour cette émission conçue et préparée avec Avril Ventura, réalisée par Philippe Baudouin et dont la prise de son est assurée par Anthony Thomasson. Géraldine Comoretto, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, autrice d'une thèse « Manger entre pairs à l'école, synchronisme et complémentarité des processus de socialisation » publiée en 2015 et puis d'un article un peu plus court, donc un peu plus facile à lire, dans un ouvrage collectif « Que manger, normes et pratiques alimentaires » sous la direction de François Dubé et publié aux éditions La Découverte. Johan Robin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, auteur d'une thèse et également sur les cantines, la gouvernance des cantines scolaires, impact sur la qualité, le prix et les filières locales d'approvisionnement. On apprend beaucoup, beaucoup de choses en vous lisant. Benjamin Rondeau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de français dans un collège du Blanc-Mesnil en Seine-Saint-Denis. Vous êtes écrivain, vous êtes l'auteur du livre le plus drôle à ce jour sur les cantines scolaires. Self-service, une vie de demi-pensionnaire, publiée l'année dernière aux éditions du Motel. La première partie de ce livre et la plus grande partie, ce sont des photos?
Absolument, il y en a 64. Ce sont les photos de tous les repas que j'ai mangés pendant une année scolaire.
Et vous leur avez donné des titres avec Henri Michel, votre
co-auteur. Exactement, c'est Henri Michel que j'ai contacté pour savoir comment il voulait intervenir dans le livre. Et puis après quelques essais, il a très rapidement trouvé cette idée qui m'a semblé très bonne, qui était de légender chacune des photos, ce qui effectivement leur donne un aspect singulier pour chacune. Ce sont comme s'il s'agissait de photos à part entière, d'œuvres d'art singulières. Et donc pour chacune, il y a un petit titre qui peut-être parfois même pour moi mystérieux.
Comme si la cantine était un happening d'art contemporain. On y pense en voyant cette photo intitulée Éclipse. Alors c'est la photo préférée d'Avril Ventura. Éclipse, c'est de la purée jaune clair avec un steak haché recouvert de sauce marron. Effectivement, ça peut évoquer une éclipse pour qui a un peu d'imagination. Géraldine Comoretto, la plupart des recherches autour de la cantine, au départ, ne s'intéressaient pas à l'expérience du mangeur, l'expérience de l'enfant, finalement. C'est très récent.
Oui, c'est vrai que c'est assez récent, et notamment dans les développements de la sociologie de l'enfance contemporaine. C'est vrai qu'on avait beaucoup plus tendance à s'intéresser au contenu des assiettes, vraiment aux aspects nutritionnels et diététiques. Et l'idée qui a germé, moi, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, c'était de faire fi un petit peu de ce qui se passe dans l'assiette et de regarder justement autour des assiettes comment les enfants évoluent, échangent, partagent, jouent, transgressent, pour apporter un peu une nouvelle image aux cantines.
Et ce n'est pas du tout anecdotique, parce que la grande question que se posent les parents et les éducateurs, c'est pourquoi mangent-ils et pourquoi ne mangent-ils pas les enfants qui fréquentent les cantines. Et vos textes apportent des réponses. En fait, il y a une énorme influence de certains enfants sur les autres avec une forme de leadership alimentaire. Expliquez-nous cela.
Oui, c'est vrai que dans les groupes sociaux, les groupes d'appartenance, on a toujours des leaders, quelques élèves un peu dominants au sein des groupes classes. C'est pas propre à la cantine, ça se retrouve dans les cours de récréation et en salle de classe. Et c'est vrai que c'est un peu les meneurs dans les groupes de pairs. Il y en a toujours un ou deux et ça va être lui ou elle qui va décider quelle table on va choisir dans le restaurant scolaire et se précipiter pour l'avoir, qui s'assoit où, à côté de qui on veut ou non manger. Et tout ça, c'est vrai que c'est des petites choses auxquelles on pense pas, mais que les parents ne connaissent pas du tout, en fait. Et on a une vraie méconnaissance des parents sur ce qui se passe à la cantine, hormis demander qu'est-ce que t'as mangé ce midi, ce qui se passe autour, et qui l'a joué, combien de morceaux de pain t'as pris, qui t'a surveillé. Souvent, les parents l'ignorent, en fait.
Et on peut décréter ce qui est bon ou pas bon, comme tous les gens, en tout cas tous les Français qui mangent, les enfants parlent de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils n'aiment pas, de leurs autres expériences alimentaires et s'enrichissent les uns les autres.
Oui, c'est ça, il y a complètement un échange, et notamment entre pères, donc entre enfants, autour des goûts et des dégoûts de chacun, de « ah, pourquoi toi t'aimes les moules, moi je déteste ça », ou même au-delà de ça, sur les manières de table aussi, « ah, mais ferme la bouche quand tu manges, on est pas des porcs ». Donc il y a une vraie contagion et un mimétisme où les enfants vont et critiquer, ou alors aller dans le sens de ce qui se passe soit à la maison, et si leurs copains, leurs copines font la même chose ou s'en éloignent.
Alors je conseille personnellement de fermer la bouche quand on mange, c'est quand même un peu plus élégant. Il y a aussi cet aspect, quand on est tout petit à la cantine, on se mélange entre filles et garçons, on mange plus facilement de tout, et tout ça se complique pendant l'école élémentaire.
Ouais, c'est vrai qu'il y a une vraie évolution en âge, je pense. C'est un moment un peu charnière que l'école élémentaire, puisque surtout à partir du CE2, la classe de CE2 vers 8 ans constitue vraiment un moment de césure, j'ai l'impression, dans les rapports entre pères, entre filles et garçons, où jusqu'en CP, CE1, on mange ensemble, on joue ensemble dans la cour, mais on partage la même table, on a des tables un peu mixtes. Et puis dès le CE2, les rapports sexués prennent une autre dimension et on retrouve presque exclusivement des tables masculines, des tables féminines, où on se mélange moins, parce que les premiers sentiments amoureux sont là, mais doivent être cachés encore.
Ce sont donc des jeux de normes qui circulent, on va y revenir, mais on s'amuse aussi à la cantine, enfin on essaye parce qu'il y a beaucoup de bruit, c'est compliqué. Benjamin Rondeau, vous qui êtes enseignant et qui mangez à la cantine, vous aussi vous avez voulu vous amuser en prenant en photo vos plateaux repas?
Alors au début c'était pas forcément pour m'amuser, c'était vraiment un test, parce qu'à l'époque je prenais pas mal de photographies en série de différentes choses. Ça pouvait être des parapluies cassés dans la rue, des plaques d'immatriculation dont l'assemblage de lettres me semblait intéressant. Et je suis arrivé un jour à la rentrée, j'ai pris une première photo, j'ai continué durant toute la semaine, et puis ça m'a semblé être graphiquement assez intéressant, parce que très rapidement en fait se met en place l'idée d'une variété dans la répétition. On a envie de jouer très rapidement également au jeu des 7 erreurs, et puis je me suis dit que finalement sur une année il serait intéressant de savoir combien de saucisses lentilles je pouvais manger, combien de pamplemousses je pouvais manger. J'ai pas fait forcément le calcul, mais visuellement ça apparaît, les pamplemousses reviennent souvent. Donc c'était au départ pas forcément un jeu, c'était un essai, mais c'est vrai qu'à la fin, une fois qu'on a l'intégralité des photos à disposition, plein de jeux peuvent se mettre en place, que ce soit sur la disposition des aliments et puis les récurrences de certaines denrées.
Comme le pamplemousse que j'avoue manger assez rarement depuis la fin de ma scolarité, en tout cas comme à la cantine, coupé en deux avec le sucre et la petite cuillère. Alors on le disait, la cantine est ludique, on a parlé des verres Duralex. Jusqu'où ça peut aller les numérotations?
48, vous pouvez pas avoir plus de 48 ans.
Alors c'est le verre Gigogne qui a été créé en 1946, et les enfants jouent aussi avec la nourriture, avec les frites. En fait, on sent, en vous lisant, Géraldine Pomoretto, que les enfants essayent à toute force de prendre un petit peu de liberté dans ce moment du repas.
C'est vrai que le moment de cantine pour les enfants est finalement assez contraignant, surtout dans les écoles où on a encore un service à table. Les enfants sont de 20 à 45 minutes à table, assis, sans devoir bouger, sans devoir parler trop fort. Il faut surtout pas jouer avec la nourriture. Donc c'est vrai que tout a un peu prétexte justement à transgresser ces interdits. Et les jeux se font autour de la nourriture, des brodeaux, des couverts, des petits sachets de ketchup, des parfums, des yaourts, tout ce qu'ils peuvent trouver en fait pour détourner un petit peu la monotonie de ce moment de cantine.
Et ce qu'on note en vous lisant, c'est la distance entre le discours des adultes sur la cantine qui devrait être un moment silencieux et puis le ressenti des enfants qui recherchent à la fois la commensalité, hein, les camarades, et puis le fait de passer un bon moment, donc de rire. Il y a aussi un jugement des enfants sur le contenu des assiettes. J'ai interviewé plusieurs élèves, ce sont ceux de la classe média du collège Gérard Philippe où je me rends régulièrement. Cette classe a décidé de s'intéresser à la cantine de son collège, qu'ils jugent assez durement, hein. Ça, ce sont tous les élèves du collège, ils ont fait une enquête et puis ils ont demander un rendez-vous à la mairie avec à la fois l'élu et puis la représentante de la société Sogeres qui gère les cantines du 18e arrondissement de Paris. À la sortie de ce rendez-vous auquel j'ai pu assister, j'ai demandé aux élèves ce qu'ils pensaient de leur cantine. Sabina, Juliette, Pauline, Oumar, Mahmoud Junior, Jules et les autres avaient beaucoup de choses à dire.
Il y a beaucoup d'enfants qui se plaignent et surtout les collégiens.
De quoi se plaignent-ils ?
Que la nourriture, elle est pas bonne, ou le cadre de l'école. Notamment la vaisselle est sale, et c'est pas très approprié. Voilà.
Qui n'aime pas la cantine ?
Moi.
Nous tous.
Certaines fois, les aliments, ils sont pas très bons ce qu'ils font. Et en fait, ils ont préféré choisir les avis des parents que les avis des enfants. Enfin, nous, quoi. Parce que c'est nous, quand même, qui mangeons à la cantine et pas les parents.
On peut pas rajouter du sel à la cantine. En fait, ils ont dit que le sel qu'ils mettent dans la nourriture, ils en mettent un peu et c'est la quantité qu'il faut mettre. Mais pour nous, il faut en mettre un peu plus.
J'arrive à la cantine en dernier, on me fait passer en dernier juste parce que je parlais. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a plus rien à manger. Super. Et le pire, j'arrive, ma mère, elle me croit pas hein, que je n'ai pas mangé ce midi. Hein, parce qu'elle sait très bien que si moi je mange pas le midi, je vais tomber. Donc voilà quoi.
Du coup, en fait, on est obligé de manger du pain tout le temps. Et ça devient un petit peu lassant à la fin. Les desserts sont souvent satisfaisants.
Les repas de la cantine sont équilibrés, mais des fois, ça correspond pas forcément beaucoup à nos goûts.
Qu'est-ce que t'aimerais manger à la cantine ?
Que ce soit varié. Des fois, on a des moments là où c'est plutôt végétarien. Ou des fois, on a des moments là où on se fait plaisir avec des choses un peu plus grasses.
Qui regrette l'absence de cordon bleu à la cantine ?
Moi, je regrette. Parce que ça se fait pas quand même de pas absenter le cordon bleu juste parce qu'il y avait trop de protéines.
De laisser passer un plaisir comme ça, de le faire partir, c'est pas juste.
C'est pas juste, alors je ne voulais pas rendre un discret hommage au président de la République en évoquant les cordons bleus, mais les élèves de 6e en avaient parlé un petit peu avant aux responsables de la restauration scolaire du 18e arrondissement. Alors, bien sûr, la qualité est mise en cause, mais aussi les normes diététiques qui, elles, sont portées par tout le monde, y compris les parents du 18e arrondissement qui se sont d'ailleurs beaucoup mobilisés pour la qualité des cantines scolaires et qui continuent de le faire. Ces normes diététiques, Johan Robin, elles sont prédominantes, ce sont elles qui définissent finalement ce qu'on mange ou non dans les cantines scolaires.
Exactement, mais c'est des normes qui viennent, qui sont assez récentes, puisque la cantine scolaire avant était assez peu réglementée sur le contenu des repas, et avec l'augmentation de l'obésité, notamment infantile, en 2001, il y a eu une circulaire qui commence à cadrer justement la qualité nutritionnelle des repas, et depuis on allait de plus en plus vers cette voie pour clarifier la qualité, notamment avec Par la suite, la création du groupe d'études de marché de restauration collective et nutrition, qui fait des recommandations nutritionnelles en termes de portions, de grammage et de fréquence des repas, notamment des repas lipidiques. Et tout ça qui a été mis aussi par la loi via un arrêté et un décret en septembre 2011 qui fixe dans la loi ces grammages.
Donc ça veut dire pas trop souvent de frites, pas trop souvent de cordon bleu, puisque ce sont des aliments extrêmement gras et non pas protéinés, hein, comme l'a dit un élève.
Exactement, mais ça veut aussi dire des produits laitiers à tous les repas, spécificité française.
Donc des normes qui sont à la fois très prégnantes, mais très françaises. Il faut dire que la cantine scolaire est en elle-même une spécificité française, dans le sens où elle est fréquentée très massivement. Cet écart entre finalement ce qu'on peut manger à l'extérieur qui serait plus salé, peut-être plus sucré, est-ce que vous le ressentez aussi lors de vos repas à la cantine, Benjamin Rondeau?
Oui, effectivement. Nous avons la possibilité en revanche de rajouter du sel, c'est-à-dire que sur chaque table...
Au collège, pas seulement
voilà,
les adultes.
C'est ça, au collège, oui. Mais sur les contraintes nutritionnelles, il y a quelque chose qui me semble intéressant, c'est que ça rentre un petit peu... C'est-à-dire qu'il y a différentes contraintes quand on est chef de cantine. Il y a la contrainte effectivement nutritionnelle, il y a la contrainte économique et puis il y a également la contrainte quand même du goût, parce qu'il faut que ça soit une éducation au goût. Et entre ces trois contraintes, il y a comme une contradiction, c'est-à-dire que la contrainte économique oblige à acheter des produits qui ne sont pas forcément nutritivement très qualitatifs. Il y a également les contraintes de sécurité qui obligent à faire surcuire les aliments, ce qui va faire perdre forcément du goût sur certaines viandes. Et donc on se retrouve en fait avec une espèce de chef. Alors, moi, le collège dans lequel je travaille, c'est une cantine autonome. Donc, il y a un chef sur place qui fait la cuisine pour tous les collégiens. Mais il se retrouve effectivement un peu seul face à l'intégralité de ses contraintes. Et je sais qu'il peut m'en parler assez souvent. Et je sais qu'il peut également regretter l'époque où il avait plus de 2,50 € par plateau pour chaque plateau pour faire un entrée plat dessert et que désormais il a moins d'1,50 €. Et évidemment, ces couscous, il les présente quand il nous les sert maintenant comme un couscous du pauvre. Et on sent que ça lui fait pas forcément plaisir. Donc, c'était juste pour revenir sur ce qui avait été dit auparavant sur les contraintes nutritionnelles.
Bien sûr, et j'ajoute que dans votre livre, vous lui donnez la parole. C'est William Leroy.
C'est William Leroy, c'est ça. Et comme le texte se présente sous la forme d'un abécédaire et que l'abécédaire étant ce qu'il est, le W dans le milieu de la cantine. J'ai eu du mal à trouver le mot qui convenait. J'étais ravi que le chef s'appelle William.
Ça tombait effectivement bien. Johan, Y, peut-être dur à utiliser aussi. Robin.
Oui, j'aimerais rajouter sur la contrainte du prix que par exemple sur l'Île-de-France en 2017, pour un coût de revient du repas en moyen de 9 €, les denrées alimentaires prennent que 2,02 €. Dans ce coût total. Donc, si on veut augmenter la qualité des denrées alimentaires, c'est pas ce qui pèse le plus cher. C'est vraiment ce qui pèse le plus cher, c'est la main d'œuvre derrière.
Tout de même, quand on s'intéresse à l'expérience du mangeur à la cantine, outre le fait que ce qu'il mange est préparé peut-être avec des coûts extrêmement minimes, il faudrait regarder ce que mangent effectivement les enfants. Un élève l'a interviewé, mentionné. Le pain, combien de repas à la cantine sont majoritairement constitués de pain? Ça, c'est quelque chose que les enfants racontent, Géraldine Comoretto.
Oui, c'est vrai que le pain, c'est un élément dominant de l'alimentation française déjà et dont les enfants raffolent. Alors la quantité dans certaines écoles est quand même contrôlée par les encadrants, les animateurs, pour que les enfants ne mangent pas que du pain. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est beaucoup demandé. Moi, j'avais appelé les 3 P pour les pâtes, le poulet et le pain. Bon, on pourra rajouter les frites, mais c'est vrai que c'est quelque chose dont ils sont très friands. Moi, j'ai vu des élèves manger la vinaigrette de la sauce salade avec du pain et ne pas toucher à la salade.
Est-ce que c'est ce qui fait la différence, qui marque la différence entre quand des adultes vont goûter la cantine? Parce que c'est le cas hein, dans toutes les caisses des écoles, même à la Sogeres ou dans d'autres entreprises de restauration collective. On dit toujours, oui, il y a des adultes qui goûtent, qui mangent. Et cette expérience est à milieu de celle des enfants. On dirait qu'on ne parle pas du même repas. Comment expliquer ce ressenti, Géraldine Comoretto?
Alors, je pense que les cantines, la restauration collective peut être de toute façon un moment difficile un petit peu pour tout le monde. Après, la qualité des produits, je pense, c'est pas la même. Le coût, on vient d'en parler. Et je pense que ce qui différencie, c'est que les enfants ont une injonction à goûter. On les oblige aussi à goûter. Donc forcément, dès qu'on oblige des enfants à faire quelque chose, la dimension plaisir, elle est atténuée. Quand nous, on va manger au restaurant d'entreprise, on prend quand même plaisir au moins à manger avec ses collègues. On n'est pas dans de la contrainte. Donc je pense que ça joue aussi sur le plaisir que prennent les enfants dans ce moment-là.
Alors qu'on peut convaincre, on a parlé tout à l'heure de ce qui pouvait se faire entre camarades. Benjamin Rondeau, on va quand même un peu défendre les cantines. En tout cas, vous les défendez. Je sélectionne un petit extrait de votre texte. Vous parlez d'une collègue que vous emmenez à la cantine et vous dites, pour le même prix qu'un sandwich raté, elle paie un prix dérisoire puisqu'elle débute sa carrière et que le montant d'un repas est proportionnel à l'échelon du commensal. En produisant moins d'efforts qu'il n'en faut pour se cuisiner un plat de pâtes insipide, elle a droit à une entrée, un plat, un dessert, du pain, de l'eau à volonté et surtout à une compagnie réjouissante. Elle entre dans une communauté. C'est ça l'expérience de la cantine ?
Oui, c'est-à-dire qu'on vraiment, il est très rare que les professeurs qui sont un jour descendus dans le réfectoire remontent manger dans la salle des profs. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant d'ailleurs dans les collèges, c'est-à-dire la répartition également chez les professeurs, la manière dont dont ils mangent. Il y en a qui restent dans leur salle, qui ont besoin sûrement d'un peu de calme et de silence. Il y en a d'autres qui se réunissent en salle des professeurs, et puis il y a ceux qui viennent manger au réfectoire. Et ceux qui viennent manger au réfectoire, une fois qu'ils sont venus, même avec leur propre plat, ils restent parce qu'il y a une ambiance qui vient de la proximité des élèves, une ambiance plutôt festive en réalité le midi, et même quand le repas est raté, ça donne lieu à des commentaires qui sont tout aussi intéressants que si le repas était réussi.
Bon, ça c'est pour toute la partie humaine, même si on a parlé un peu du prix. Maintenant, je l'ai dit, la cantine, c'est une économie, c'est un marché. Je vous propose d'écouter un extrait d'un reportage, c'est un excellent reportage qu'il faut d'ailleurs voir, qui s'intitule « Les casseroles de la restauration collective ». Le titre est éloquent, ce reportage dénonce des arrangements aussi financiers autour de la question de la restauration scolaire. Et puis, comment aujourd'hui, des parents se battent pour une meilleure qualité, tandis que les villes essayent de trouver des solutions. On va donc entendre et des parents. Et puis, Annie Pinquier, experte chez Agriat, c'est un cabinet de conseil en restauration collective.
Je connais le système des cuisines type Sodexo, Sogeres, Elior et compagnie. Et il n'y a que le profit qui va passer en avant. Donc les repas seront moindres au niveau qualitatif, quantitatif.
S'ils trouvent que la cuisine centrale a des défauts, il n'a qu'à mettre les moyens et pour qu'on puisse garder notre service public.
Et si on est à 1 000 000 de repas par an, comprenez bien que les candidats vont faire le nécessaire pour se battre sur ce type de dossier. L'idée, c'est de tirer le vrai du faux de ces offres en disant qu'est-ce qui est du marketing et qu'est-ce qui est du concret pour la ville. Et on sait bien que les grands groupes savent traiter ou savent travailler leur marketing.
Un reportage signé Cécile Destève, il avait été diffusé sur France 5. Johan Robin, en fait c'est du marketing, ce sont des entreprises, en tout cas quand ce sont des délégations extérieures aux communes, ce sont des entreprises qui se battent pour des parts de marché.
Oui, tout à fait. Dès lors que la municipalité pour la restauration scolaire crèches primaires élémentaires décide de déléguer son service de restauration, elle fait un marché public et donc du coup il y a un appel à la concurrence et les producteurs de repas vont bien évidemment se battre pour obtenir le marché. L'objectif a été fait et principalement sur les coûts. Donc c'est aussi pour ça que certaines personnes vont se plaindre de la qualité des repas, puisqu'on on va essayer d'économiser sur le coût. Mais donc ça c'est les parents d'élèves qui vont être plutôt sensibles à la qualité. Mais si on prend du point de vue du contribuable, qui n'a pas d'enfant, qui mange à la cantine, lui, ce qui l'intéresse plutôt, c'est le coût du repas, parce qu'un repas, en restauration scolaire est extrêmement subventionné. Si on prend le cas, le rapport de la Cour des comptes sur la région Île-de-France en 2018, par exemple, donc j'ai déjà évoqué le coût de revient du repas à 9 euros, les parents sont mis à contribution entre 1,50 euros et 4 euros par repas, pour un coût de revient de 9 euros. Tout le reste, c'est payé par les contribuables de la région Île-de-France, pour un coût global de près de 100 millions d'euros par an. Donc c'est pas négligeable, et on a toujours des intérêts qui vont s'affronter. Pareil sur la qualité des contenants, notamment des verres, des assiettes. Les parents luttent contre le plastique. On a vu le cas à Bordeaux, où il y a une espèce de mini-guerre qui s'est faite contre la municipalité pour supprimer le plastique. Mais sont venus au créneau les personnels de cantine qui, eux, sont avantagés par le plastique dans leurs conditions de travail parce que c'est beaucoup moins lourd à porter, c'est des conditions de travail beaucoup moins difficiles. Donc on a toujours des intérêts très antagonistes qui vont se confronter dans la restauration scolaire, et il faut pouvoir ménager à la fois les contribuables, les parents d'élèves et les enfants, et les personnels de cantine.
Yoann Robin, je me suis interrogée en vous lisant sur la vitesse à laquelle se sont converties au bio les grandes entreprises de la restauration collective qui proposent assez facilement du bio, un certain pourcentage, hein, pas l'intégralité des repas. Est-ce qu'on passe pas un peu à côté du sujet en parlant simplement de bio, alors qu'on le voit, ce sont des marchés colossaux qui vont concerner les matières premières de l'alimentation, mais aussi l'emploi. Mais aussi, vous l'avez dit, ben voilà, la vaisselle, tout ce qui touche les cuisines. Finalement, le bio, c'est un tout petit bout de la lorgnette de la restauration scolaire.
Alors effectivement, quand la circulaire de 2001 qui a porté les grammages, qui a commencé à légiférer sur les grammages et la qualité nutritionnelle des repas, avait aussi pour but d'industrialiser toute la restauration scolaire et la restauration collective, parce qu'en France, on a un système de restauration scolaire qui fonctionne plutôt bien, qui est plutôt généralisé par rapport aux pays anglo-saxons. On voit bien les différences. Michael Moore a déjà d'ailleurs fait dans un de ses documentaires Where to Invade Next, pour piquer des meilleures idées à des pays. Il voulait envahir la France pour piquer la restauration scolaire.
Oui, enfin, donc personnellement, j'ai failli tomber de ma chaise. Ça correspondait pas très bien aux expériences que
ça correspond pas bien aux expériences qu'on a.
Voir les élèves du 18e arrondissement de Paris.
Quand on voit le même phénomène aux États-Unis qui se traduit par aussi du food porn, c'est-à-dire prendre en photo ses repas. Mais cette fois par les élèves, suite au plan de Michelle Obama pour une meilleure qualité. On voit que on est très très bien servi, quelle que soit la qualité en France pour le moment.
On va y revenir.
En apportant des paniers, des bouteilles, des paquets et la radio. Des cornichons, de la moutarde, du pain, du beurre, des petits oignons, des confitures et des œufs durs. Des cornichons, des cornets de bif et des biscottes, des macarons, un tire-bouchon, des petits beurres et de la bière, des cornichons. On n'avait rien oublié, c'est maman qui a tout fait, elle avait travaillé pour nous sans s'arrêter, pour préparer les paniers, les bouteilles, les paquets et la radio. Le poulet froid, la mayonnaise, le chocolat, les champignons, les ouvre-boîtes et les tomates, les cornichons.
France Culture,
Être et savoir, Louise Touret.
Les confitures et les cornichons, la moutarde et le beurre, la mayonnaise et les cornichons, le poulet, les biscottes, les œufs durs et puis les cornichons.
Les cornichons, parce que dans cette émission, dans laquelle nous parlons de la restauration collective, un petit hommage au pique-nique et au beau jour nous semblait tout à fait approprié. Il n'y a pas souvent de cornichons à la cantine, on l'a dit, il n'y a pas souvent de sel non plus. Et puis, il y a une perte de compétences, on l'a entendu dans l'extrait du reportage tout à l'heure. Quand les communes, c'est un mouvement historique, se sont mises à déléguer l'alimentation et la restauration collective à des entreprises privées, elles ont perdu la compétence, préparer des repas, tout ça, c'est un service municipal. Quand on ferme ce service, c'est très difficile de le remettre en place, Yoann Robin.
Oui, tout à fait, parce que dès lors qu'on va déléguer la restauration scolaire, on n'a plus de cuisiniers, on n'a plus de cuisinières, on n'a plus personne pour contrôler les achats alimentaires si on a délégué cette partie-là aussi. Et donc du coup, il n'y a plus de personnel qualifié pour savoir comment fonctionne l'approvisionnement alimentaire. Et c'est comme ça que ça a été mis en évidence, notamment dans le reportage que vous évoquiez tout à l'heure, et dans d'autres ce serait des tromperies ou plutôt des aliments qui ne correspondent pas au cahier des charges, en tout cas, une fois qu'on vérifie ce qu'il y a derrière. Mais encore une fois, c'est très difficile de vérifier. Il faudrait vérifier tous les jours, aller dans les cuisines tous les jours, des cuisines qui appartiennent parfois aux prestataires privés, donc la municipalité n'a pas forcément le droit d'y aller comme bon lui semble. Donc on a tout ça qui fait que même si un prestataire veut faire de la qualité avec du bio, du saisonnier, du circuit court, etc., il est très difficile pour la municipalité de vérifier et de pouvoir communiquer dessus en toute confiance et en toute transparence envers les parents d'élèves. Et c'est ça aussi qui crée de la suspicion, à tort ou à raison, vis-à-vis des grands de la restauration scolaire.
Il y a des mouvements qui consistent à remettre dans le domaine public la restauration scolaire.
Oui, tout à fait, oui.
D'ailleurs, c'est arrivé à des villes assez importantes. Je pense à Rennes. Il y a aussi des villes qui continuent à recentraliser. C'est un projet parisien.
Parisien, tout à
fait. La restauration scolaire avec beaucoup de contestations.
Et en France, on a énormément de différences dans le mode de gestion de la restauration scolaire, avec même l'exemple de Mans-Sartou qui a créé son propre potager pour la restauration scolaire, donc une régie agricole municipale. Et au contraire, on va avoir à l'inverse des phénomènes de centralisation comme à Paris, qui rencontre encore une fois beaucoup de contestations. Avec même un site internet qui s'est créé contre ce projet de la part des parents d'élèves.
Et justement, cette cantine de Mans-Sartou, sur laquelle il y a eu plusieurs reportages, c'est un projet qui semble tout à fait magnifique, avec du local, du bio.
Alors là, ça ne peut pas être plus local vu que c'est dans la municipalité.
Moins de gâchis, des enfants qui ont l'air très heureux, des employés aussi. Voilà, une cantine modèle, alors que finalement le paysage général est beaucoup plus contrasté. Ça donne l'impression qu'il y aurait un progrès, alors que finalement on ne sait pas, et c'est difficile d'avoir un tableau général d'un paysage aussi disséminé.
Oui, c'est très difficile d'avoir un tableau général, parce qu'on n'a aucune donnée sur le sujet, sur la restauration scolaire. C'est chaque municipalité qui va gérer ses propres restaurations scolaires. On n'a pas de base de données sur le prix, le coût de revient, la gestion en plus, la gestion comptable est très compliquée parce qu'il y a des tâches partagées avec l'État, entre les municipalités, etc. Donc tout ça est un peu flou pour tout le monde, à la fois pour le contribuable, les parents d'élèves et très certainement aussi pour les municipalités elles-mêmes.
Géraldine Comoretto, est-ce que on peut dire que quand les enfants mangent dans une cantine où l'alimentation voilà n'est pas bonne, où tous les marchés sont calculés au rabais parce qu'il y a des gammes hein, dans la restauration scolaire, cela reflète un manque de considération pour les mangeurs, pour les enfants, pour les employés de la cantine?
Je ne sais pas s'il y a réellement un manque de considération. Après, je pense qu'on s'intéresse effectivement peu à l'enfant en tant qu'acteur de sa consommation, de son alimentation, puisqu'on lui confère finalement très peu d'intérêt. Il intervient pas ou dans ces questions-là. Après, l'intérêt pour l'enfant, on va le trouver aussi ailleurs. Il y a dans le partage avec les copains, les copines, mais pour en revenir un petit peu au personnel de service, les dames de cantine, les cantinières, comme on les appelle dans le sens commun, qui se sentent parfois un peu dépossédées de leur fonction de cuisinière, vont aller trouver dans la relation à l'enfant plus de légitimité et elles vont attendre de la reconnaissance de la part des enfants, de ces mangeurs qu'elles nourrissent. Donc on va trouver ailleurs quelque part une reconnaissance quand un enfant va dire « Ah, c'est trop bon aujourd'hui ce que t'as fait » ou et à l'inverse, elles peuvent être vexées si les enfants disent rien alors qu'elles ont passé une matinée à préparer une salade composée. Donc on va trouver ailleurs quand même de l'intérêt pour l'enfant, pareil dans la relation entre les animateurs, les surveillants et les élèves. Ce sera pas forcément par l'aspect culinaire, nutritif et l'alimentation, mais par des aspects plus sociaux en fait.
Et on sait par ailleurs que cela peut être des emplois extrêmement précaires, payés par exemple 10 mois sur 12.
Oui, c'est des contrats très précaires. Johan le disait, du personnel très peu qualifié, souvent, où peu de formations sont mises en place. Pareil pour les animateurs socioculturels. On est sur des emplois effectivement courts, précaires et peu rémunérateurs.
Johan Robin, c'est tout de même là aussi un manque de considération pour la cantine, l'alimentation, les mangeurs, les employés.
Avec ce processus qu'on a d'avoir établi des grammages, donc c'est très difficile de pouvoir respecter les mêmes grammages quand on a 1000, 2000 repas et qu'il faut avoir les cuisses de poulet qui font toutes le même poids. C'est compliqué à part si on passe par un processus industriel. Et c'est comme ça que justement on a perdu petit à petit le sens du travail du cuisinier en restauration scolaire. Puisque en faisant appel à des industriels, ils ont aussi, et c'est normal de leur part, commencé à vendre des produits de plus en plus transformés, ce qui aide les cuisiniers parce qu'ils ont beaucoup moins de tâches, mais ce qui fait perdre le sens du métier de cuisinier vers un métier plutôt réchauffeur de plats, où il y a beaucoup d'endroits où ça va juste être la gestion de la liaison chaude, de la liaison froide et réchauffer les plats. Et là, on perd vraiment, alors à la fois du sens, mais aussi de la qualification, et donc du coup, on perd aussi beaucoup de salaire de la part du cuisinier. Et c'est pour ça qu'il y a un développement aussi des contrats courts dans ce milieu.
Cette notion de grammage, d'où vient-elle ? Elle est tellement absurde et étonnante qu'on se demande comment elle a pu être créée. Que peut signifier un grammage en alimentation? Parce que, je sais pas, tout le monde ne va pas manger l'entièreté de son plateau repas. Parfois, on peut manger aussi plus. Enfin, les enfants s'échangent beaucoup de nourriture pendant les repas. D'où ça vient tout ça?
Ben c'est depuis cette circulaire de 2001 et la lutte contre la volonté de lutter contre l'obésité infantile. Donc et aussi je pense qu'il y a beaucoup de mères que ça rassure de pouvoir justifier les grammages quand les parents viennent dire mon enfant mange pas assez à la cantine. On lui dit bah si c'est les bons grammages, c'est les grammages recommandé.
C'est ce qu'on voit en fait dans vos photos, Benjamin Rondeau, cette absurdité parfois, hein, même si un cuisinier, voilà, mais on pense qu'il doit respecter des normes, cette absurdité d'un plateau composé d'une entrée, d'un plat et d'un dessert bon, plus ou moins bien assorti, dont on voit mal comment, enfin peut-être que vous mangez tout, mais on voit mal comment tous les enfants pourraient tout manger en fait.
C'est vrai que c'est très bizarre, oui. Et puis quand on va ramener son plateau après le repas et qu'on constate le gâchis qui est fait tous les jours parce que effectivement ils sont une entrée, un plat et un dessert et qu'ils ne vont pas pouvoir tout manger, qu'il y a des physiques différents, des appétits différents, et quand on voit les assiettes revenir à la plonge certains jours, c'est même carrément affolant, et on se rend compte effectivement de l'absurdité, l'absurdité de vouloir faire manger à peu près la même chose de manière très calibrée, très balisée à tout le monde, sachant qu'à table après effectivement il y a des petits commerces qui peuvent s'effectuer ou des échanges ou des dons tout simplement d'élèves sympathiques à d'autres un peu plus gourmands.
Mais parce que ça correspond au principe même de la commensalité, manger ensemble, c'est aussi un peu s'échanger des aliments. Ça marche aussi avec le goûter que donnent les parents. Yoann, Robin, on a des chiffres sur le gâchis dans la restauration collective, tout ce qui est jeté, on est sur des ordres de 30%.
Oui, enfin c'est beaucoup, surtout des chiffres d'expérience locale, parce qu'il y a aucune donnée, nationale sur ce sujet, il me semble. Mais ça peut être beaucoup. Et puis il y a des fois, enfin ça dépend aussi des repas, mais il y a des fois des repas où c'est bien plus que ça. Et après, on va avoir des établissements vertueux qui vont faire beaucoup moins. Notamment, la Fondation Nicolas Hulot a lancé Mon Resto Responsable comme initiative pour aider tous les gestionnaires de restaurants collectifs à lutter contre le gaspillage, mais à la fois alimentaire, mais aussi sur les usages de l'eau, de l'électricité. Dans toute la démarche de développement durable, et on voit qu'il y a des expériences qui atteignent leur but, notamment avec la réorganisation du service. Par exemple, mettre le pain à la fin de la chaîne de service plutôt qu'au début fait que les personnes vont prendre le pain s'ils en ont besoin, et non pas de façon systématique. Développer les salades bar en self-service permet que les enfants et les convives se servent ce dont ils ont envie, et privilégier aussi le fait de se resservir à prendre tout de suite une grosse portion. Donc il y a plein de choses qui sont mises en place et qui ont fait leurs preuves.
Mais qui sont difficiles à mettre en place partout, parce que ce qu'on craint aussi, c'est le désordre à la cantine Géraldine Comoretto. Donc il y a à la fois un jeu de normes alimentaires, derrière une résistance des enfants qui ont leur propre goût et puis leur propre usage, et puis cette idée que la cantine serait un endroit calme, ou en tout cas dans lequel on pourrait ne pas devenir fou à cause du bruit, parce qu'il y a aussi des problèmes d'acoustique.
Oui, alors ça c'est, il faut lire, je pense, complètement utopique de penser qu'une cantine peut être calme, en tout cas en élémentaire, ou j'imagine aussi en collège, dans les gros établissements. On ressort forcément au bout de 2 heures dans ces espaces les oreilles bien chargées. Mais oui, il y a cette idée que les encadrants doivent maintenir un minimum de calme, faire attention que les enfants jouent pas avec la nourriture à s'en envoyer à travers la table, se disputent pas sur les quantités. En tout cas, quand on n'est pas sur du self-service, les enfants doivent apprendre à gérer le partage d'un plat, même si tout est calibré. Donc, sur des nuggets ou des morceaux de poisson, ils vont pouvoir les compter. Il va de soi qu'ils se battent moins sur la quantité de courgettes, mais voilà, par exemple, les jours de frites, il faut vraiment réguler la consommation, voir que les animateurs ou les encadrants servent même les frites, au risque que l'un prenne les 3/4 du plat et laisse rien aux autres derrière. Donc il y a aussi une notion de partage qui est très forte dans ces repas, que ce soit sur un plat commun partagé ou effectivement autour d'un plateau où on va donner le dessert qu'on aime moins ou le fromage à son copain en échange de son morceau de pain.
Jour de frites, ce sera un bon titre pour une de vos photos, oui. Benjamin Rondeau. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'éducation alimentaire. Alors, ça s'ajoute à la longue liste des éducations A qu'on devrait faire à l'école et qu'on n'a pas forcément le temps de mettre en pratique parce que les programmes, parce que évidemment les obligations scolaires. Cette semaine, encore une tribune dans le journal Libération d'un élu parisien du 15e arrondissement qui s'intéresse aux cantines. Alors cette éducation alimentaire qui consisterait à connaître la valeur nutritive des aliments, je me demande si on peut la mettre en relation avec les repas à la cantine, finalement, qui semble être une autre forme d'éducation alimentaire qui contredirait les savoirs qu'on peut acquérir sur les bienfaits des aliments. Géraldine Comoretto.
Là, je pense que aussi c'est des disparités très très locales, parce que selon les établissements, on va avoir des actions mises en place et où effectivement on va essayer d'être en cohérence avec les recommandations nutritionnelles et de mettre en place des actions qui vont en ce sens-là. Et puis d'autres établissements où on rejoint les problèmes, ce qu'on disait, il y aura pas de formation du personnel qui saura pas forcément comment mobiliser des outils de promotion mis en place par exemple par Avenance, par Sodexo. Donc ça peut être deux poids, deux mesures selon les établissements et sur ce qu'on offre ou pas aux enfants en termes d'éducation alimentaire. Je sais que les programmes sont beaucoup plus développés aussi et les actions en collège encore qu'en primaire.
Benjamin Rondeau, sur cette éducation et cette non-éducation alimentaire.
Sur cette éducation, ça se limite très souvent à la semaine du goût nous concernant. Il y a d'autres aspects sur lesquels on essaie de mettre l'accent. Par exemple, le gâchis dont je parlais, voilà, je sais qu'un professeur de SVT du collège, on essaye de sensibiliser en positionnant à la fin différents bacs pour qu'ils voient ce qu'ils jettent plutôt que de reposer directement leur plateau dans des petites cases à cet effet pour qu'ils partent vers la plonge, voilà, pour qu'ils puissent matérialiser en fait tout ce qu'ils jettent. Mais sur le goût, c'est vrai que et sur les valeurs nutritionnelles et sur à quoi correspond ce que je suis en train de manger, c'est vrai qu'il y a très peu de travail fait dans mon collège, ouais.
Et ce que je constate aussi dans la présentation, enfin les photos que vous montrez dans votre livre, c'est à quel point la cantine est un conservatoire d'un certain nombre de recettes qu'on ne prépare plus du tout à la maison, dans la vie courante et même
dans les restos.
C'est
ça, mais on dirait presque que c'est un défi ou que c'est une contrainte tacite que les chefs se passent secrètement avec des œufs durs surmontés de béchamel. Mais ça existe encore. C'est-à-dire qu'on retrouve toujours tout ce qu'il y a...
Été
identifiés comme des plats qui déplaisent et qui participent complètement à l'image cauchemardesque, peut-être un peu fantasmée, mais cauchemardesque qu'on a de la cantine, dans nos souvenirs, etc. Et bien on les retrouve encore, on retrouve effectivement la macédoine, on retrouve ces œufs durs avec de la béchamel, on retrouve différentes choses de ce genre qui peuvent nous rappeler nos pires souvenirs d'enfance et qui sont toujours là, malgré tout.
Sauce aux champignons diverses et variées. Johan Robin, vous vouliez intervenir?
Oui, je voulais intervenir sur l'apprentissage du goût, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que l'apprentissage du goût se fait pas forcément au meilleur moment de la vie en restauration scolaire. Alors que les études, notamment faites à l'Institut Paul Bocuse à Lyon, montrent que l'apprentissage du goût, il y a une étape essentielle entre 3 et 5 ans, la phase du non et des rejets alimentaires, alors qu'avant les enfants mangeaient tout ce qu'ils voulaient, à partir de ce moment-là...
Tout ce que les adultes voulaient.
Tout ce que les adultes voulaient, exactement. À partir de ce moment-là, ils vont plutôt avoir tendance à dire non. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire leur éducation alimentaire, et notamment sans contrainte, parce que la contrainte va braquer l'enfant. Or, c'est pas vraiment ce qu'on voit dans les cantines scolaires.
Géraldine Comoretto, est-ce que justement on ne devrait pas utiliser la maternelle, un âge aussi plus tendre, pour éduquer au goût? Alors finalement, ça intervient très tard, on l'a dit, plutôt au collège.
Oui, bah c'est vrai que moi, de ce que j'ai observé en élémentaire, les enfants sont a priori sortis de cette phase de néophobie justement alimentaire. Donc faudrait, oui, intervenir beaucoup plus tôt et mettre en place ces actions, dès la maternelle, je pense, avec des choses plus ludiques, je pense, pour intéresser les enfants. Alors ça se fait beaucoup en maternelle avec les fruits. Le matin, ils ont toujours, dans beaucoup d'écoles, la découverte de tel ou tel fruit pour ouvrir un petit peu leur répertoire alimentaire. Donc ça serait intéressant de le développer davantage, je pense, oui, dès la maternelle.
Il peut y avoir également le processus inverse qui consiste à ne pas essayer de leur ouvrir des horizons gustatifs, mais leur donner ce qui leur fait plaisir. C'est-à-dire que j'ai vu apparaître l'année dernière une chose exceptionnelle, c'était baroque. C'est une omelette au kebab. Et quand le plat est arrivé, évidemment, tout le monde était surexcité, puisqu'il y avait le mot kebab à l'intérieur. Ça se limitait à quelques petits morceaux posés dans une omelette de cantine, hein, c'est-à-dire la seule omelette qu'on peut faire sans casser vraiment des œufs. Et donc, à l'intérieur, il y avait ces petits morceaux de kebab, et là, les élèves étaient ravis puisqu'il y avait écrit kebab.
Je me demande si ça ne déclenche pas un peu de néophobie alimentaire chez moi, mais oui.
Mais ces jours-là, le gâchis, en revanche, on est plus ou moins sûr.
Mais les élèves en parlaient dans le reportage. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on ne leur donne pas tout simplement ce qu'ils aiment? Géraldine Comoretto.
Là, on va se heurter justement, je pense, à toutes les contraintes et toutes les normes nutritionnelles qui vont à l'encontre termes de diététique de ce qu'aiment les enfants, parce que c'est sûr que on en parlait des frites. Moi, j'ai souvenir de l'arrivée des cuisses de poulet et des frites dans le restaurant scolaire, mais c'était la folie là-dedans. C'était, il fallait les contenir vraiment. Il y avait jamais des carottes à l'eau n'ont eu cet effet-là. Donc, par contre, c'est vrai que les semaines du goût et les semaines un peu thématiques sur les pays, sur les repas de tel ou tel pays ont un succès fou. Les semaines thématiques, ouais. Les choses un peu originales, exotiques, c'est vrai, marche beaucoup. Donc peut-être qu'il faut cultiver un peu plus ça, et peut-être que juste une appellation peut convaincre des enfants de manger un produit qu'ils aiment pas a priori, comme le kebab.
Mais on revient au travail des cuisiniers. Il faut du temps, il faut un petit peu de temps,
de la connaissance de terrain. Il faut vraiment que le cuisinier soit en phase aussi avec son public visé. C'est que, comme dans n'importe quel restaurant, on n'imagine pas un restaurateur ne pas prendre en compte les retours de ses convives.
On sait que c'est un secteur professionnel où il y a beaucoup de souffrance au travail. Est-ce que c'est pas sur ces professionnels-là qu'il faudrait s'appuyer avant tout? Est-ce que on ne les oublie pas trop souvent quand on parle des cantines?
Il y a beaucoup de souffrance au travail parce que la cantine, la restauration notamment scolaire, implique des conditions de travail qui peuvent être parfois très pénibles, et notamment selon comment elle est organisée, avec des ports de charge lourdes et potentiellement répétées, plus le bruit et des horaires décalés. Donc oui, c'est vers ces personnes-là qu'il faut agir aussi, mais c'est un ensemble. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a des intérêts antagonistes dans la restauration scolaire, et on n'arrivera pas à faire avancer. À faire avancer la restauration scolaire sans toutes ces parties, c'est-à-dire à la fois les contribuables qui subventionnent, les parents d'élèves et les élèves qui sont plus intéressés par la qualité du repas, et le personnel de service qui est intéressé par la signification de son métier et les conditions de pénibilité et d'exercice du métier.
Et les mangeurs?
Oui, les mangeurs, les enfants, oui, je les ai cités.
Pardon. Merci beaucoup à tous les trois. On n'a pas eu le temps de parler des yaourts, Benjamin Rondeau, mais c'est un passage très intéressant du texte.
C'est le Y.
À la fin de votre livre, yaourt, yogourt, et toutes les orthographes et les prononciations. C'est le service, une vie de demi-pensionnaire, publié aux éditions du Motel. Géraldine Comoretto, on retrouve votre article dans le livre « Que manger normes et pratiques alimentaires » publié à La Découverte. Merci également à vous, Yoann Robin, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On passe à la dernière partie de l'émission, c'est la leçon de choses de Sophie Bobert. Et c'est la première partie de l'entretien de Sophie avec l'architecte et urbaniste Paul Chemetoff. Il nous emmène dans sa première école, une école Montessori, dans les années 30, à Paris.
Mes souvenirs sont... J'allais d'abord, quand j'étais très petit, dans une école Montessori. Ma mère m'emmenait tous les jours en métro jusque dans le 16e, avenue de Lamballe. J'ai eu beaucoup de mal quand je suis arrivé dans une école normale, d'apprendre à écrire en plein et délié, alors qu'on écrivait en lettres détachées, en lettres... Ce qui était... C'était très bien. Mais l'école Montessori était, sur le plan pédagogique, de l'ouverture des enfants, l'éveil des enfants, infiniment mieux que l'école française telle qu'elle était. Enfin, plume sergent-major, blouse grise, coup de bâton, et c'était la caserne.
Enfin, elle était très moderne. Votre maman est très attentive à la question pédagogique.
Mes parents étaient des intellos russes du 19 ou du début du 20e siècle. Ce qui leur donnait un avantage certain sur... Et moi, ça m'a donné un milieu familial dans les lectures, ce que je voyais du travail de mon père, qui était graphiste et metteur en page. Enfin, tout ça m'a nourri. Mais en fait, si je suis devenu architecte, c'est pas du tout pour ces raisons-là. Je voulais faire autre chose, plutôt devenir prof d'histoire. Et mon père m'a expédié pendant la guerre. On était... à Châteauroux pendant la guerre. C'était aussi assez formateur, la campagne. Il m'a envoyé voir un orienteur professionnel qui a dit graphiste ou architecte. Et comme mon père était graphiste, j'ai dit architecte. Voilà. Et voilà, voilà comment on devient architecte. Mais à vrai dire, je me suis assez bien installé dans ce moule.
Mais quel genre d'élève étiez-vous, Paul Chemetov, hein? Est-ce que vous étiez un bon élève, appliqué, ou plutôt du style rêveur, hein?
J'ai eu plusieurs phases. J'ai commencé à être un bon élève. Après, j'ai eu une période totalement révoltée où j'ai dû passer 2 ans. J'étais collé tous les samedis, tous les dimanches. Mais voilà. Et après, ça s'est mieux passé puisque j'ai été présenté au concours général de philosophie, au concours général de français, au concours général d'histoire géo. Et donc je me suis tout à coup, tant à Châteauroux jusqu'à 44, que dans ma dernière année de philo à Paris, je me suis épanoui, avec quand même, quand je retrouve mes bulletins de notes, un peu trop dissipés. Je refusais de travailler. Et peut-être aussi une façon d'intérioriser les difficultés. Enfin, l'occupation, c'était quand même pas très gai. Enfin, c'était pas gai du tout, même. Des amis de mes parents qui étaient déportés, d'autres qui tombaient dans les combats. Enfin,
et donc c'était une façon de refuser le système.
Oui, de réagir à ce dont j'étais protégé par mes parents, mais quand même dans des conditions de vie difficiles, dans un certain dénuement. Mais c'est pas le dénuement qui me gênait. Je n'avais pas conscience, mais quand je vois les photos de mes parents au lendemain de la guerre, ils ont carrément les traits tirés, quoi.
Vous avez déclaré dans le livre qui vient de paraître aux éditions Arléa, Paul Chemetov, être architecte, je vous cite, « Être architecte, c'est avoir le souci de construire et de transmettre. Mais à vous, qu'est-ce qu'on a transmis, Paul Chemetov ?»
Ce qu'on m'a transmis, c'est dont je vous parlais, c'est l'extrême liberté d'esprit, l'extrême ouverture cultivée de mes parents. Ma mère avait quand même dans sa bibliothèque, elle parlait français, russe et allemand. Finalement, le russe était sa langue natale, mais elle était passée par l'Allemagne avant de venir en France. Et dans sa bibliothèque, il y avait, enfin c'est quand même incroyable, la première édition de Proust en dehors de livres russes et allemands. Mais même les revues que recevait mon père avant-guerre pour son travail, Domus, Arts et Métiers Graphiques, Guébranz Graphique, c'était ce qu'il y avait de mieux en Europe du point de vue des arts décoratifs, du point de vue même de l'architecture.
Mais il vous en parlait de ces revues-là, il vous laissait peindre, il vous laissait toucher.
Elles étaient sur la table, je les regardais, je les feuilletais, et j'ai reçu à 13 ans, de 13 à 15 ans, je n'ai fait que lire, que regarder une bibliothèque fabuleuse. Et c'est quand même un luxe incroyable.
Être architecte de Paul Chemetov vient donc de paraître chez Arléa, comme Sophie Bobert nous l'a dit. Et on retrouve la deuxième partie de cet entretien dans notre prochaine émission. Et dans notre prochaine émission, on donnera la parole à des enseignants qui prennent la plume pour parler de leurs élèves, des enfants. Les voient-ils d'ailleurs de la même façon que nous ? Eh bien, pas du tout. On leur tendra les micros d'être et savoir. Et puis dans le numéro suivant, je profite du fait d'avoir un peu de temps pour vous l'annoncer, nous nous demanderons comment fonctionne la mémoire des apprentissages avec des spécialistes du cerveau. En attendant, vous pouvez retrouver nos podcasts et nous réécouter en ligne sur le site de France Culture, franceculture.fr ou sur toutes les plateformes d'écoute. À très bientôt.